Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie. Comme tous les dimanches, c'est une joie immense que de se retrouver pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer notre Dieu, pour le glorifier, pour l'exalter ensemble, petits et grands, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever pour écouter la lecture de cette portion d'écriture que je vous propose ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. De toute façon, d'honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14. Beaucoup d'entre nous ont déjà pris connaissance de ce récit, mais je vais lire juste les versets 22 à 27. Ce récit où les disciples sont dans la barque et la barque est en train de prendre l'eau. Matthieu 14, 22 à 27. Lisons au nom du Seigneur. Aussitôt après, Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. Je vous invite à vous asseoir. En tout cas, je tiens à remercier le groupe de louanges pour cette première partie. En tout cas, où tout a été vraiment préparé pour nous mettre dans la présence même du Seigneur. À travers ce texte, peut-être que ceux qui ont les Bibles peuvent aussi les garder ouvertes. Je voudrais vous parler du fait de sortir de la barque. Le fait de sortir de la barque, on peut le dire autrement, je voudrais vous parler ce matin, le fait de marcher sur l'eau. Vous savez que c'est possible pour nous aussi de marcher sur l'eau. Jésus venait de procéder au miracle de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons pour nourrir toute une foule. Comme toujours d'ailleurs dans les Écritures, quand l'auteur se met à rapporter un récit, vous voyez, celui-ci, le récit, en tout cas contient toujours un enseignement figuré qui dépasse ou qui va beaucoup plus loin, vous voyez, que les faits qu'il venait en tout cas de vous relater. Et c'est ce que nous pouvons remarquer dans ce chapitre. Le soir, Jésus se trouva au milieu de son peuple. J'ai parlé de la foule. En conséquence de son rejet, parce qu'il a l'idée déjà, son rejet qui va venir, mais en conséquence de son rejet, vous voyez que Jésus lui-même renvoie la foule. La foule qui représente évidemment le peuple. Ceci après avoir accompli un miracle qui devait au fait amener le peuple à reconnaître qu'il était bien évidemment le Messie, celui dont les prophètes ont parlé. En même temps, il contraint aussi ceux-là même qui l'avaient accepté, c'est-à-dire les disciples, il les contraint à le précéder, c'est-à-dire à se mettre en route sans lui pour traverser, j'allais dire, le lac, mais au fond, pour traverser le monde jusqu'à l'autre rive où il a prévu les rejoindre. Maintenant, quant à lui, nous dit le texte, il monte donc sur une montagne où il est seul pour prier. Vous voyez que c'est une image de la position que Christ a prise. Il est monté au ciel pour s'occuper de ceux-là qui sont à lui et qui, nous tous, traversent la nuit orageuse, en quelque sorte, de ce monde, en attendant quoi ? En attendant son retour, en attendant qu'il nous rejoigne de l'autre côté. La Bible dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en faveur des siens, de sorte qu'il peut nous secourir à tout moment. Mais je dis bien à tout moment. Jésus venait donc de multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir la foule. Il monte pour aller prier. Sous-entendu, mais pour aller prier en faveur des disciples. Alors, est-ce que les disciples avaient-ils compris, évidemment, que Jésus avait procédé, ainsi pour les amener à avoir encore beaucoup plus de foi, une foi affermie en lui? Je ne pense pas que les disciples l'avaient compris, parce que ce récit de la traversée du lac nous montre en fait qu'ils n'avaient pas saisi la leçon de la multiplication du pain, où Jésus demande qu'il est le Messie. Il leur demande de traverser et il leur dit « Je veux vous rejoindre de l'autre côté ». C'est la vérité, il n'a pas dit « Je vais vous abandonner, je vous rejoins de l'autre côté, mais moi je vais en plus prier, et je vais prier pour vous ». On a de quoi être serein, quelles que soient les péripéties. Voyez ? Mais les disciples n'avaient pas compris la leçon de la foi. Sur la base de ce récit, frères et sœurs, nous allons essayer de réfléchir pour en tirer quelques leçons, quelques enseignements qui s'imposent à nous aussi. Nous sommes comme les disciples, en fait. Nous sommes dans la barque, en réalité. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Frères et sœurs, lorsque vous réfléchissez à cela, vous allez être amenés à vous poser la question de savoir, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas tout simplement, mais vraiment le plus simplement possible du monde, calmer la tempête. Et la chose était terminée. Il ne calme pas la tempête, il dit « n'ayez pas peur ». Mais pourquoi il leur demande de ne pas avoir peur avant que le problème ne soit résolu? Il n'avait pas encore résolu le problème. En réalité, il devait d'abord résoudre le problème. Et une fois que le problème est résolu, voilà, une fois que le calme est revenu, leur dire « maintenant, n'ayez pas peur et soyez sans crainte. » Ce n'est pas ce qu'il fait. La tempête est bel et bien présente. La vie des disciples est menacée. Jésus ne fait rien si ce n'est de leur dire « n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Frères et sœurs, voyez que, en fait, c'est ce que nous souhaitons. Nous implorons Dieu. Oh Dieu, viens et change la situation que je traverse. Et nous venons à lui avec toutes nos craintes, tous nos doutes et toute notre incrédulité. Mais le Seigneur nous dit, rassurez-vous. Autrement dit, alors que vous êtes encore et encore dans la tourmente, Jésus vous dit que votre cœur ne se trouve. Que votre cœur ne se trouble point. Ceci avant même que la situation ne soit changée. Vous savez ce que c'est, frères et sœurs. Eh bien, évidemment, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Dieu a besoin d'un acte de foi. Dieu a besoin d'un acte de foi. Tant que nous n'allons pas poser un acte de foi, je vous assure que Dieu ne fera rien. En Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 20, il est dit que Dieu peut faire. Il dit « peut faire ». Mais il ajoute « par la puissance qui agit en nous ». Voilà comment Dieu fait. Il peut faire, mais il ne fait que par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, quelle est cette puissance qui agit en nous et avec qui Dieu veut composer? Quelle est cette puissance? Mais c'est notre foi. C'est évidemment notre foi. S'il n'y a pas de puissance qui agit à l'intérieur de nous, frères et sœurs, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu n'interviendra pas. Dieu ne travaille en nous qu'en fonction de notre foi. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir une foi énorme comme on l'entend. Il me faut une grande. Non. C'est notre foi qui offre à Dieu la possibilité d'accomplir de grandes choses dans notre vie, dans notre assemblée. Si tu ne manifestes pas la foi, comment veux-tu que Dieu intervienne dans ta vie? Dieu demande de notre part un acte de foi. S'il n'y a pas de puissance qui agit à l'intérieur de nous, bien-aimés, Dieu ne va pas intervenir. Certaines personnes peuvent peut-être s'offusquer en disant, mais Dieu peut tout faire. Sans nous, Dieu peut tout faire. Mais Dieu, vous voyez, tant que vous ne posez pas un acte de foi, mais les choses ne bougeront pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de puissance, mais c'est plutôt parce que Dieu nous a délégué en quelque sorte l'autorité. Et jusqu'à ce que nous agissions par la foi, mais Dieu ne peut pas ou ne veut pas. N'importe comment vous pouvez vous exprimer, mais Dieu ne peut pas ou ne veut pas. Non. Rien ne se produira tant qu'il n'y aura pas d'expression de foi de notre part. De notre part. Au lieu de résoudre le problème, ce qui les préoccupe, afin que les disciples reprennent courage, non, il leur dit rassurez-vous. Rassurez-vous. Il commence par dire rassurez-vous. Je disais tout à l'heure, mais c'est ça la foi. Dans les difficultés, rassure-toi. Rassure-toi. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Ce sur quoi Jésus lui a dit, viens, viens. Vous voyez, remarquez que ce mot vient en réalité, viens. Mais ce mot en réalité aurait eu le même effet, mais pour tous les disciples. Même si c'est Pierre qui avait parlé, mais tous les disciples auraient pu sortir et marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Tous les disciples. Pierre qui est sorti de la barque seul, afin de marcher sur l'eau, il a marché sur l'eau. Mais ça aurait eu un effet pour tous les disciples. Alors, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais ce qui se passe dans ce récit est exactement ce qui caractérise les chrétiens, voyez, pour ne pas dire beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire la peur. Mais la peur de l'échec. La peur de l'échec. Il y a des personnes qui savent évidemment que Dieu veut qu'elles fassent quelque chose. Il y a même des communautés qui savent que Dieu veut qu'elles fassent quelque chose, justement. Oui. Mais qui ont peur de quoi? Qui ont peur de l'échec. Et donc, qui ont peur de sortir de la barque, de sortir du bateau. Mais si on regarde ce qui est dit, on voit que le bateau était rempli d'eau. Et que les disciples avaient quoi? Avaient peur de se noyer. En considérant cette situation, vous voyez, de manière logique, et je peux même dire, tout en mettant de côté, tout en faisant abstraction à tout ce qui est émotion, sentiment, mais vous pouvez voir qu'il y a très peu, mais peut-être pas, très peu de différence entre le fait de sortir de la barque pour rejoindre Jésus et le fait de rester aussi dans le bateau, avec le risque évidemment de se noyer, mais il n'y a pas de différence quasiment. Le bateau était rempli d'eau et il coulait, donc s'il restait là, sans rien faire, qu'allait-il se passer? Ils allaient se noyer. Ils allaient se noyer. Mais si on reste là, bien-aimé, on va se noyer. Mais Jésus nous dit, sortez de la barque. Si on reste là, on va se noyer. Mais la question qu'on peut se poser, combien de temps allait-il rester là, encore dans la barque, qui coulait? Combien de temps? combien de temps. En fait, mais vous allez mourir si vous ne le faites rien. Vous allez mourir. Vous devez sortir. Vous devez faire quelque chose. Il faut prendre des risques. Marcher sur l'eau. Il faut surmonter la peur du risque et le désir que tout soit sans risque. Comment la foi peut vouloir que tout soit sans risque? C'est pas possible. La vie chrétienne, frères et sœurs, est une vie de risque. C'est une vie risquée. Faire confiance à Dieu, voyez-vous, c'est vivre tout le temps en prenant des risques. Vous n'aurez pas toujours les éléments devant vous d'appréciation. Mais quand Dieu dit « marche sur l'eau », je marche. Les disciples qui étaient dans le bateau, s'ils avaient pensé logiquement, en mettant en avant leurs émotions, mais ils ne se seraient pas accrochés à ce bateau qui n'allait pas les sauver. Donc, sans intervention de Jésus, ils allaient sombrer. Il y a très peu de différence entre rester dans le bateau et en sortir. Il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Et Pierre a pris la bonne décision en sortant de la barque. En fait, tout le monde, frères et sœurs, tout le monde veut ce miracle, marcher sur l'eau. Tout le monde veut ce miracle. Tout le monde aimerait pouvoir dire, oui, grâce à Jésus, j'ai marché sur l'eau. Mais cependant, mais vous avez peur de sortir de la barque. Vous avez peur. Savez-vous que vous ne ferez pas l'expérience d'un miracle tant que vous ne sortirez pas de la barque. Tant que vous ne ferez pas quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Voyez, frères et sœurs, tous veulent des résultats différents de ce que le monde obtient, mais ils ne veulent pas faire quelque chose de différent. Ce n'est pas possible. Si on fait tout le temps la même chose, on aura tout le temps les mêmes résultats. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de différent si vous ne faites pas les choses différemment, si vous ne voyez pas les choses différemment. Autrement dit, en faisant les mêmes choses, vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir des résultats différents. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si vous restez dans le bateau, vous ne ferez jamais l'expérience du miracle de marcher sur l'eau. Et pourtant, les gens ont tellement peur de se lancer, tellement peur. Vous devez surmonter cela. Vous devez surmonter la peur et l'échec, par la peur de l'échec, et vous dire que vous allez sortir du bateau. Sortir du bateau. Et que vous n'allez pas faire, finalement, comme tout le monde. Vous connaissez l'histoire qui a donné naissance à l'expression mouton de Pamure. Vous voyez, quand un mouton considéré par les autres comme un leader se jette dans la mer, mais tous les autres aussi à sa suite vont faire la même chose. Ils vont tous se jeter dans la mer. Il n'est pas possible de les en empêcher. Comme vous connaissez le naturel du mouton, qui est de toujours suivre le premier à quelques endroits qu'il aille. Si le leader se jette sur une falaise, mais le reste se jettera aussi du haut de la même falaise, les moutons. C'est ce qu'on appelle la mentalité du troupeau. Vous allez remarquer à quel point les gens dans ce monde ont cette mentalité. Nous suivons la foule. Parce qu'il a fait ça, moi je dois faire ça. Parce qu'il n'a pas fait ça, je ne dois pas faire ça. Nous suivons la foule. Nous faisons tout ce que la foule fait. Et pourtant, nous voulons être uniques. Et on ne peut pas être unique en suivant la foule. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un nous classe dans un groupe donné, je ne sais de quelle catégorie, nous allons certainement revendiquer notre individualité. Non, je ne suis pas. Et pourtant, nous avons cette mentalité de troupeau. Et nous avons peur de faire quoi que ce soit de différent, Mais c'est ce que font tous les autres. Nous voulons en quelque sorte être au milieu, voilà, au milieu, pas trop en bas, mais pas trop non plus, en haut, mais en réalité, être au milieu, c'est être moyen, être au milieu, mais être moyen, c'est quoi? Mais finalement, c'est finir par être médiocre, au milieu, non. C'est là que se trouve la plupart des gens. Loin du meilleur, aussi loin du pire, on choisit le milieu. On ne peut pas être comme tout le monde et obtenir des résultats surnaturels. Si vous voulez des résultats différents, vous devez faire quelque chose, mais quelque chose de différent. Pas ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous allez devoir surmonter la peur de sortir de la barque. Vous allez devoir cesser de faire les choses comme tout le monde jusqu'à ce que les gens disent que oui, vous êtes fou. Parce que la foi aussi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Je vous assure que ce que je vous dis, frères et sœurs, est très important dans notre marche dans la foi. Vous ne voulez pas vivre comme tout le monde dans la médiocrité, c'est bien. Vous voulez obtenir des résultats différents, c'est bien tout ça. Mais cependant, vous ne voulez rien faire de différent. Ce n'est pas comme cela que la vie de la foi fonctionne, marche. Vous allez devoir faire un pas de foi. Vous allez devoir cesser d'avoir peur de l'échec. Pierre est donc sorti de la barque et il a marché. Il a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, nous dit le texte, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Sauve-moi. Dans la mesure où il regardait à Jésus qui est l'auteur et le consommateur de sa foi, il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait faire le miracle, l'impossible. Il a pu faire, mais ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Mais il l'a fait grâce à la foi. Mais parce qu'il avait reçu simplement une parole de Dieu. Viens. Viens. Un simple mot de cinq lettres. Viens. Frères et sœurs, tout ce que vous avez besoin, c'est une simple parole de Dieu pour sortir du bateau. Sortir du bateau et pour commencer à marcher sur l'eau. Et vous pouvez alors faire l'impossible. Vous pouvez accomplir ce que vous n'auriez jamais pu faire par vous-même. Je vous le dis, si votre vie n'est pas surnaturelle, elle est superficielle. Je pense que ça dit quelque chose à Julien par rapport à l'entretien qu'on a eu hier dans la préparation au baptême. Si votre vie n'est pas surnaturelle, je vous assure, votre vie chrétienne, elle est superficielle. Vous devriez vivre une vie surnaturelle au-delà de du visible. Vous devriez pouvoir constater et dire Dieu agit puissamment dans ma vie. Vous n'êtes jamais sorti du bateau et pourtant vous aimeriez avoir ce témoignage. Non, il va falloir que vous sortiez du bateau, que vous gardiez les yeux, sur Jésus et non sur tout ce qui vous entoure. Quand Pierre a vu le vent, vous voyez, mais la question c'est, qu'est-ce que le vent avait à voir avec le fait de marcher sur l'eau? Qu'est-ce que le vent avait à voir? En fait, il n'y avait aucun rapport. Il n'aurait pas pu marcher sur l'eau, même si le temps était complètement calme. Vous voyez? Voyons ce que le vent a fait. Il a détourné son regard de Jésus et la peur s'est emparée de lui. Il a commencé, dit le texte, il a commencé à réaliser que, mais je suis ici au milieu d'un lac. Et en revenant à son raisonnement naturel, justement, en détournant les yeux de Jésus et en commençant à regarder les choses d'un point de vue naturel, et à commencer à quoi ? À s'enfoncer. Et c'est ce qui se passe exactement pour nous. Si au cours, frères et sœurs, si au cours des deux ou trois premières années de mon ministère ici à Aubagne, j'avais contemplé les choses de manière naturelle, je vous assure. Je vous assure que j'aurais coulé, j'aurais fait le naufrage. J'aurais fait le naufrage. Je n'aurais pas tenu le coup. J'aurais abandonné, je vous assure, mais vous savez quoi? Grâce soit rendue à Dieu parce que j'ai gardé les yeux fixés sur la vision, sur ce que Dieu m'avait dit. J'ai continué à le chercher et à faire ce qu'il me disait de faire, ce que je savais que je devais faire venant de lui, à dire ce qu'il me mettait à cœur de dire, même si cela allait m'attirer les remarques des frères et sœurs. Vous voyez, maintenant, 9 ans après que Dieu m'ait appelé à sortir de la barque, je peux voir sa bénédiction dans ma vie. Je peux voir sa bénédiction dans la vie de la communauté. Je peux voir sa bénédiction dans ma famille aussi. La bénédiction de Dieu. Dieu a fait des choses, je vous assure, extraordinaires dans ma vie. Beaucoup de leçons apprises et à travers notre ministère ici à Aubagne. J'en suis tellement reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et d'ailleurs, mon épouse m'a beaucoup soutenu dans cette démarche. Elle a toujours fléchi les genoux afin de prier pour mon ministère, enfin, pour ne pas dire pour notre ministère. C'est une grâce énorme que d'avoir une femme de la destinée avec qui vous avez la même vision. Vous regardez dans la même direction, avec qui vous avez les choses, avec qui vous voyez les choses de la même manière. Nous avons toujours gardé les yeux fixés sur Jésus. Et je dois toujours, justement, continuer à garder les yeux sur Jésus parce que, dans le naturel, je peux couler. Je peux couler à tout moment. Nous pouvons couler à tout moment. Du point de vue naturel, si Dieu n'intervient pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il est dit au verset 30, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Alors, je trouve cela intéressant. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à prier. Alors, je ne sais pas si vous, mais ça se passe comment, à votre avis? Si vous sortez d'un bateau qui évidemment est sur l'eau et vous marchez dans l'eau, mais vous ne commencez pas à couler, vous coulez directement. Vous coulez directement et simplement. Mais on dit qu'il a commencé à couler. Mais là, je pense, il est dit qu'il a commencé à couler parce que cela signifie qu'il ne s'est pas enfoncé dans l'eau d'un coup. Vous voyez, il a commencé à couler de façon progressive. Progressivement. Cela est très significatif, frères et sœurs. Lorsque vous faites un pas en avant et que vous commencez à suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'échouez pas d'un seul coup. C'est pas possible. Vous n'échouez pas d'un seul coup. Si vous quittez Jésus des yeux, vous commencez à couler et vous commencez aussi à réaliser la peur qui commence à vous envahir et que vous utilisez votre raison au lieu d'utiliser votre foi. C'est ce qui se passe. Mais dès que vous voyez cela se produire, si vous prenez conscience et vous tournez immédiatement votre regard vers le Seigneur, votre attention sur lui, le texte dit, ok, vous ne coulerez pas. Vous allez juste commencer le ressaisissement et vous ne coulerez pas. Il se peut que vous constatiez que de temps en temps, vous commencez à couler. Mais bien-aimés, sachez que c'est contrôlable. C'est contrôlable. Vous n'avez pas à avoir peur de cela. Mais c'est ce que Pierre a fait. Il a tourné son attention vers le Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas blâmé. voyez, le Seigneur de lui-même ne l'a pas traité d'imbécile en lui disant, mais pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi? Il lui a dit simplement, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il lui a tendu la main et l'a relevé. Cependant, Jésus ne l'a pas pris dans ses bras, ne l'a pas soulevé, ne l'a pas mis au dos. Non, il l'a relevé et ils ont marché. Ils ont marché tous les deux sur l'eau jusqu'à la barque. Il est dit d'ailleurs, et ils montèrent dans la barque et le vent, c'est ça. Si vous lisez le même récit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 21, il est dit, ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc aussitôt qu'ils rentrent dans la barque, mais ils sont à l'arrivée là. Ils sont à l'arrivée. Donc c'est absolument miraculeux. Il n'a pas laissé Pierre se noyer, il ne l'a pas blâmé non plus, mais il lui a tendu la main et l'a aidé. Je vous dis, frères et sœurs, que si vous surmontez votre plan de l'échec, si vous sortez de la barque, si vous prenez un risque, si vous commencez à avancer dans cette direction, vous ne ferez peut-être pas tout parfaitement. Mais sachez que Jésus est là. Jésus est là. Tout près, il est là. Et si au moment où vous commencez à voir que vous allez échouer, que vous commencez à paniquer, à douter, vous vous tournez tout simplement vers le Seigneur et vous vous en remettez en tout cas à lui, je vous assure que vous parviendrez à atteindre l'autre rive, l'autre côté. Le Seigneur n'avait pas dit à ses disciples de monter dans la barque pour faire la moitié du chemin et se noyer. Non. Je vous dis que quoi que Dieu vous appelle à faire, quoi que Dieu vous appelle à faire, il ne vous appelle pas à sortir d'Égypte pour que vous mouriez dans le désert. Non. Il vous appelle à sortir d'Égypte pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Il vous dit de sortir du bateau, non pas pour vous noyer, mais pour que vous puissiez marcher sur l'eau, sur les difficultés, sur l'adversité, pour passer avant lui de l'autre côté, afin d'atteindre l'autre rive. Je crois, frères et sœurs, que Jésus vous parle peut-être à travers ce récit. Il vous encourage à vous libérer de l'esprit de limitation et à croire pour de grandes choses pour Dieu. Réfléchissez et dites-vous, mais si l'argent n'était pas un problème pour moi ou pour notre communauté, si je n'étais pas disqualifié pour mon manque d'expérience et de compétences, réfléchissez à ça. Si je ne me laissais pas décourager par les critiques, prenez donc tous les facteurs qui vous limitent et qui vous retiennent et dites-vous ensuite, mais que ferais-je s'il n'y avait pas ces limites-là? Hein? Si toutes ces choses n'étaient pas des limites, que ferais-je? Je vous assure que vous vous lancerez. Vous vous lancerez. Mais c'est ça la foi. La foi chrétienne ne se mesure que devant ce qui, aux yeux des hommes, est une folie. La foi en Dieu. Ne se mesure que devant ce qui est une folie devant les hommes. Oui. Il est donc très important, frères et sœurs, je l'ai dit dimanche passé, d'écouter la parole de Dieu. Mais parce que dans ce que Dieu dit, il y a toujours ce qu'il fait, ou ce qu'il a déjà fait, hein, dans ce qu'il dit. Il y a toujours ça. Deutéronome 2, 24, « Vois, dit-il au peuple d'Israël, je livre entre tes mains Sion, roi de Hébron. » Il dit « Je livre déjà. » Dans ce qu'il dit là, « Vois, regarde, voici. » J'ai déjà fait, je livre. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pas pour se noyer, évidemment, mais pour arriver à destination. Que celui qui est capable de comprendre les vérités spirituelles les écoute, en tout cas, attentivement pour les mettre en pratique. Autrement dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église.